Du repentir. Chapitre 2. Les autres forment l'homme, je le récite, et en représente un particulier, bien mal formé, et lequel, si j'avais à façonner de nouveau, je ferais vraiment bien autre qu'il n'est. Désormais, c'est fait. Or, les traits de ma peinture ne se fourvoient point, quoiqu'il se change et diversifie. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leurre. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Je ne puis assurer mon objet. Il va trouble et chancelant d'une ivresse naturelle. Je le prends en ce point comme il est, que je m'amuse à lui. Je ne peins pas l'être, je peins le passage. Non un passage d'âge en autre, ou comme dit le peuple de 7 ans, 7 ans, mais de jour en jour, de minute en minute. Il faut accommoder mon histoire à l'heure. Je pourrais tantôt changer, non de fortune seulement, mais aussi d'intention. C'est un contrôle de divers et muables accidents et d'imagination irrésolue et, le cas échéant, contraire, soit que je sois autre moi-même, soit que je saisisse les sujets par autres circonstances et considérations. Tant il y a que je me contredis bien à l'aventure, mais la vérité, comme disait Démade, je ne la contredis point. Si mon âme pouvait prendre pied, je ne m'essaierais pas, je me résoudrais. Elle est toujours en apprentissage et en épreuve. Je propose une vie basse et sans lustre. C'est tout un. On attache aussi bien toute la philosophie morale à une vie populaire et privée qu'à une vie de plus riche étoffe. Chaque homme porte la forme entière de l'humaine condition. Les auteurs se communiquent au peuple par quelques marques spéciales et étrangères, moi le premier, par mon être universel, comme Michel de Montaigne, non comme grammairien ou poète ou jurisconsulte. Si le monde se plaint de quoi je parle trop de moi, je me plains de quoi il ne pense seulement pas à soi. Mais est-ce raison que, si particulier en usage, je prétende me rendre public en connaissance ? Est-il aussi raison que je produise au monde, où la façon et l'art ont tant de crédit et de commandement, des effets de nature et crus et simples, et d'une nature encore bien faiblette? Est-ce pas faire une muraille sans pierre, ou chose semblable, que de bâtir des livres sans science? Les fantaisies de la musique sont conduites par art, les miennes par sort. Au moins, j'ai ceci selon la discipline, que jamais homme ne traite à sujet qu'il entendit ni connut mieux que je fais celui que j'ai entrepris, et qu'en celui-là, je suis le plus savant homme qui vive. Secondement, que jamais aucun ne pénétra en sa matière plus avant, ni en éplucha plus distinctement les membres et suites, et n'arriva plus exactement et plus pleinement à la fin qu'il s'était proposé à sa besogne. Pour la parfaire, je n'ai besoin d'y apporter que la fidélité. Celle-là y est, la plus sincère et pure qui se trouve. Je dis vrai, non pas tout mon sou, mais autant que je l'ose dire. Et l'ose un peu plus en vieillissant, car il semble que la coutume concède à cet âge plus de liberté de bavasser et d'indiscrétion à parler de soi. Il ne peut advenir ici ce que je vois advenir souvent, que l'artisan et sa besogne se contrarient. Un homme de si honnête conversation a-t-il fait un si sot écrit? Ou des écrits si savants sont-ils partis d'un homme de si faible conversation? Qui a un entretien commun et ses écrits rares, c'est-à-dire que sa capacité est en lieu d'où il l'emprunte et non en lui. Un personnage savant n'est pas savant partout. Mais le capable est partout capable, et à ignorer même. Ici, nous allons conformément, et tout d'un train, mon livre et moi. Ailleurs, on peut recommander et accuser l'ouvrage à part de l'ouvrier. Ici, non. Qui touche l'un, touche l'autre. Celui qui en jugera sans le connaître se fera plus de tort qu'à moi. Celui qui l'aura connu m'a entièrement satisfait. Heureux outre mon mérite, si j'ai seulement cette part à l'approbation publique, que je fasse sentir aux gens d'entendement que j'étais capable de faire mon profit de la science, si j'en eusse eu, et que je méritais que la mémoire me secourût mieux. Excusons ici ce que je dis souvent, que je me repens rarement, et que ma conscience se contente de soi, non comme de la conscience d'un ange ou d'un cheval, mais comme de la conscience d'un homme. Ajoutant toujours ce refrain, non un refrain de cérémonie, mais de naïve et essentielle soumission, que je parle enquérant et ignorant, me rapportant de la résolution, purement et simplement, aux croyances communes et légitimes. Je n'enseigne point. Je raconte. Il n'est vice véritablement vice qu'inoffense et qu'un jugement entier n'accuse. Car il a de la laideur et incommodité si apparente qu'à l'aventure ceux-là ont raison qui disent qu'il est principalement produit par bêtise et ignorance, tant est-il malaisé d'imaginer qu'on la connaisse sans le haïr. La malice hume la plupart de son propre venin et s'en empoisonne. Le vice laisse comme un ulcère en la chair, une repentance en l'âme, qui toujours s'égratigne et s'ensanglante elle-même. Car la raison efface les autres tristesses et douleurs, mais elle engendre celle de la repentance, qui est plus grave, d'autant qu'elle naît au-dedans, comme le froid et le chaud des fièvres est plus poignant que celui qui vient du dehors. Je tiens pour vice, mais chacun selon sa mesure, non seulement ceux que la raison et la nature condamnent, mais ceux aussi que l'opinion des hommes a forgés, voire fausses et erronées, si les lois et l'usage l'autorisent. Il n'est pareillement bonté qui ne réjouisse une nature bien née. Il y a certes je ne sais quelle congratulation de bien faire qui nous réjouit en nous-mêmes, et une fierté généreuse qui accompagne la bonne conscience. Une âme courageusement vicieuse se peut à l'aventure garnir de sécurité, mais de cette complaisance et satisfaction, elle ne s'en peut fournir. Ce n'est pas un léger plaisir de se sentir préservé de la contagion d'un siècle si gâté, et de dire en soi « Qui me verrait jusque dans l'âme ? Encore ne me trouverait-il coupable ni de l'affliction et ruine de personne, ni de vengeance ou d'envie, ni d'offense publique des lois, ni de nouveauté et de trouble, ni de faute à ma parole ? Et quoique la licence du temps permit et apprit à chacun, pourtant n'ai-je mis la main ni au bien, ni en la bourse d'homme français, et n'ai vécu que sur la mienne, non plus en guerre qu'en paix, ni ne me suis servi du travail de personne sans loyer. Ces témoignages de la conscience plaisent, et nous est grand bénéfice que cette éjouissance naturelle est le seul paiement qui jamais ne nous manque. De fonder la récompense des actions vertueuses sur l'approbation d'autrui, c'est prendre un trop incertain et trouble fondement. Signamment en un siècle corrompu et ignorant comme celui-ci, la bonne estime du peuple est injurieuse. À qui vous fiez-vous de voir ce qui est louable ? Dieu me garde d'être homme de bien selon la description que je vois faire tous les jours, par honneur, à chacun de soi. Ceux qui avaient été vices, ce sont maintenant des mœurs. Tels de mes amis ont parfois entrepris de me chapitrer et mercurialiser à cœur ouvert, ou de leur propre mouvement, ou sollicité par moi, comme d'un office qui, à une âme bien faite, non en utilité seulement, mais en douceur aussi, surpasse tous les offices de l'amitié. Je l'ai toujours accueilli des bras de la courtoisie et reconnaissance les plus ouverts. Mais, à en parler à cette heure en conscience, j'ai souvent trouvé en leurs reproches et louanges tant de fausses mesures que je n'eusse guère failli de faillir, plutôt que de bien faire à leur mode. Nous autres, principalement, qui vivons une vie privée, qui n'est visible qu'à nous, devons avoir établi un patron au-dedans, auquel toucher nos actions, et, selon lui, nous caresser tantôt, tantôt nous châtier. J'ai mes lois et ma cour pour juger de moi, et m'y adresse plus qu'ailleurs. Je restreins bien selon autrui mes actions, mais je ne les étends que selon moi. Il n'y a que vous qui sachiez si vous êtes lâche et cruel, ou loyal et dévotieux. Les autres ne vous voient point. Ils vous devinent par conjectures incertaines. Ils voient, non tant votre naturel que votre art. Par ainsi, ne vous tenez pas à leur sentence. Tenez-vous à la vôtre. Tu dois faire usage de ton propre jugement. La vertu et les vices pèsent lourdement sur la conscience elle-même. Si on la supprime, tout est à terre. Mais ce qu'on dit, que la repentance suit de près le péché, ne semble pas regarder le péché qui est en son haut appareil, qui loge en nous comme en son propre domicile. On peut désavouer et dédire les vices qui nous surprennent, et vers lesquels les passions nous emportent, mais ceux qui par longue habitude sont enracinés et ancrés en une volonté forte et vigoureuse ne sont sujets à contradiction. Le repentir n'est qu'un dédit de notre volonté et opposition de nos fantaisies qui nous promènent à tout sens. Il fait désavouer à celui-là sa vertu passée et sa continence. Cette disposition d'esprit que j'ai aujourd'hui, pourquoi ne l'ai-je pas eue étant enfant? Ou bien pourquoi, avec ces sentiments, les joues fraîches ne me reviennent-elles pas? C'est une vie exquise, celle qui se maintient en ordre jusqu'en son privé. Chacun peut avoir part au battelage et représenter un honnête personnage en l'estrade, mais au-dedans et en sa poitrine, où tout nous est loisible, où tout est caché d'y être réglé, c'est le point. Le voisin de gré, c'est de l'être en sa maison, en ses actions ordinaires, desquelles nous n'avons à rendre raison à personne, où il n'y a point d'étude, point d'artifice. C'est pourquoi Bias, peignant un excellent état de famille, de laquelle, dit-il, le maître soit tel au-dedans, par lui-même, comme il est au-dehors, par la crainte de la loi et du dire des hommes. Et fut une digne parole de Julius Drusus, aux ouvriers qui lui offraient, pour 3000 écus, mettre sa maison en tel point que ses voisins n'y auraient plus la vue qu'ils y avaient. « Je vous en donnerai, dit-il, 6000, et faites que chacun y voie de toutes parts. » On remarque avec honneur l'usage d'Agésilas de prendre en voyageant son logis dans les églises, afin que le peuple et les dieux mêmes vissent dans ses actions privées. Tel a été miraculeux au monde, auquel sa femme et son valet n'ont rien vu seulement de remarquable. Peu d'hommes ont été admirés par leurs domestiques. Nul a été prophète non seulement en sa maison, mais en son pays, dit l'expérience des histoires. De même, aux choses du néant. Et en ce bas exemple se voit l'image des grands. En mon climat de Gascogne, on tient pour drôlerie de me voir imprimé. D'autant que la connaissance qu'on prend de moi s'éloigne de mon gîte. J'en vaux d'autant mieux. J'achète les imprimeurs en Guyenne. Ailleurs, ils m'achètent. Sur cet accident se fondent ceux qui se cachent vivants et présents pour se mettre en crédit, trépassés et absents. J'aime mieux en avoir moins, et ne me jette au monde que pour la part que j'en tire. Au partir de là, je l'en quitte. Le peuple reconvoie celui-là, d'un acte public, avec étonnement, jusqu'à sa porte. Il laisse avec sa robe ce rôle. Il en retombe d'autant plus bas qu'il s'était plus haut monté. Au-dedans, chez lui, tout est tumultuaire et vil. Quand la règle s'y trouverait, il faut un jugement vif et bien trié pour l'apercevoir en ses actions basses et privées. Joint que l'ordre est une vertu morne et sombre. Gagner une brèche, conduire une ambassade, régir un peuple, ce sont actions éclatantes. Danser, rire, vendre, payer, aimer, haïr, et conversez avec les siens et avec soi-même, doucement et justement. Ne relâchez point, ne se démentir point, c'est chose plus rare, plus difficile et moins remarquable. Les vies retirées soutiennent par là, quoi qu'on dise, des devoirs autant ou plus âpres et tendus que ne font les autres vies. Et les privés, dit Aristote, servent la vertu plus difficilement et hautement que ne font ceux qui sont en magistrat. Nous nous préparons aux occasions éminentes plus par gloire que par conscience. La plus courte façon d'arriver à la gloire, ce serait faire pour la conscience ce que nous faisons pour la gloire. Et la vertu d'Alexandre me semble représenter assez moins de vigueur en son théâtre que ne fait celle de Socrate, en cette exercitation basse et obscure. Je conçois aisément Socrate en la place d'Alexandre, Alexandre en celle de Socrate, je ne puis. Qui demandera à Alexandre ce qu'il sait faire, il répondra « subjuguer le monde ». Qui le demandera à Socrate, il dira « mener l'humaine vie conformément à sa naturelle condition ». Science bien plus générale, plus pesante et plus légitime. Le prix de l'âme ne consiste pas à aller haut, mais ordonnément. Sa grandeur ne s'exerce pas en la grandeur, c'est en la médiocrité. Ainsi que ceux qui nous jugent et touchent au-dedans ne font pas grande recette de la lueur de nos actions publiques, et voient que ce ne sont que filets et pointes d'eau fines rejaillis d'un fond au demeurant limoneux et pesant. En pareil cas, ceux qui nous jugent par cette brave apparence du dehors concluent de même de notre constitution interne et ne peuvent accoupler des facultés populaires et pareilles aux leurs, à ces autres facultés qui les étonnent, si loin de leur visée. Ainsi donnons-nous aux démons des formes sauvages. Et qui, sinon à Tamerlan, des sourcils élevés, des naseaux ouverts, un visage affreux et une taille démesurée, comme est la taille de l'imagination qu'il en a conçue par le bruit de son nom. Qui m'eût fait voir Erasme autrefois, il eût été malaisé que je n'eusse pris pour adage et apophthegme tout ce qu'il eût dit à son valet et à son hôtesse. Nous imaginons bien plus sortablement un artisan sur sa garde-robe ou sur sa femme qu'un grand président, vénérable par son maintien et capacité. Il nous semble que de ces hauts trônes, il ne s'abaisse pas jusqu'à vivre. Comme les âmes vicieuses sont incitées souvent à bien faire par quelque impulsion étrangère, aussi sont les vertueuses à faire mal. Il les faut donc juger par leur état rassis, quand elles sont chez elles, si quelquefois elles y sont, ou au moins quand elles sont plus voisines du repos en leur naïve assiette. Les inclinations naturelles cèdent et fortifient par institution, mais elles ne se changent guère et surmontent. Mille natures de mon temps ont échappé vers la vertu ou vers le vice au travers d'une discipline contraire. Ainsi, lorsque les fauves, enfermés dans leurs cages et désaccoutumés des forêts, se sont apprivoisés, qu'ils ont abandonné leur mine menaçante et ont appris à supporter les hommes, si un peu de sang parvient dans leur gueule brûlante, leur rage et leur fureur reviennent. Réveillés par le goût du sang, leur gosier se gonfle, leur colère bouillonne et épargne à grand-peine leur maître tremblant. On n'extirpe pas ces qualités originelles. On les couvre, on les cache. Le langage latin m'est comme naturel. Je l'entends mieux que le français. Mais il y a 40 ans que je ne m'en suis du tout point servi à parler, ni guère à écrire. Et pourtant, à des extrêmes et soudaines émotions, où je suis tombé deux ou trois fois en ma vie, et l'une, voyant mon père tout saint, se renverser sur moi, pâmé, j'ai toujours élancé du fond des entrailles les premières paroles latines, nature jaillissant et s'exprimant à force, à l'encontre d'un si long usage. Et cet exemple se dit d'assez d'autres. Ceux qui ont essayé de raviser les mœurs du monde, de mon temps, par nouvelles opinions, réforment les vices de l'apparence. Ceux de l'essence, ils les laissent là, s'ils ne les augmentent. Et l'augmentation y est à craindre. On se séjourne volontiers de tout autre bien faire sur ces réformations externes, de moindre coût et de plus grand mérite, et satisfait-on à bon marché par là les autres vices naturels, consubstantiels et intestins. Regardez un peu comment s'emporte notre expérience. Il n'est personne, s'il s'écoute, qui ne découvre en soi une forme sienne, une forme maîtresse, qui lutte contre l'institution et contre la tempête des passions qui lui sont contraires. De moi, je ne me sens guère agité par secousses. Je me trouve quasi toujours en ma place, comme font les corps lourds et pesants. Si je ne suis chez moi, j'en suis toujours bien près, mais débauche ne m'emporte pas fort loin. Il n'y a rien d'extrême et d'étrange, et ainsi j'ai des ravisements sains et vigoureux. La vraie condamnation, et qui touche la commune façon de nos hommes, c'est que leur retraite même est pleine de corruption et d'ordure. L'idée de leur amendement brouillé, leur pénitence malade, et en coulpe, autant à peu près que leur péché. Quelques-uns, ou pour être collés au vice d'une attache naturelle, ou par longue accoutumance, n'en trouvent plus la laideur. À d'autres, duquel régiment je suis, le vice pèse, mais il le contrebalance avec le plaisir ou autre occasion, et le souffre et s'y prête à certains prix, vicieusement pourtant et lâchement. Aussi, se pourrait-il à l'aventure imaginer s'y éloigner disproportion de mesure où, avec justice, le plaisir excuserait le péché, comme nous disons de l'utilité. Non seulement s'il était accidentel et hors du péché, comme au larcin, mais en l'exercice même dissolui, comme en l'accointance des femmes, où l'incitation est violente, et dit-on, parfois invincible. En la terre d'un mien parent, l'autre jour que j'étais en Armagnac, je vis un paysan que chacun surnomme le larron. Il faisait ainsi le compte de sa vie, qu'étant né mendiant, et trouvant qu'à gagner son pain au travail de ses mains, il n'arriverait jamais à se fortifier assez contre l'indigence. Il s'avisa de se faire larron, et avait employé à ce métier toute sa jeunesse, en sûreté, par le moyen de sa force corporelle, car il moissonnait et vendangeait des terres d'autrui. Mais c'était au loin, et à si gros monceaux qu'il était inimaginable qu'un homme en eût tant emporté en une nuit sur ses épaules, et avait soin, outre cela, d'égaler et disperser le dommage qu'il faisait, si bien que la foule était moins insupportable à chaque particulier. Il se trouve à cette heure en sa vieillesse, riche pour un homme de sa condition, merci à ce trafic, duquel il se confesse ouvertement. Et pour s'accommoder avec Dieu de ses acquets, il dit être tous les jours après à satisfaire par bienfait aux successeurs de ceux qu'il a dérobés. Et s'il n'achève, car d'y pourvoir tout à la fois il ne peut, qu'il en chargera ses héritiers, à la raison de la science qu'il a, lui seul, du mal qu'il a fait à chacun. Par cette description, soit vraie ou fausse, ce tuissier regarde le larcin comme action déshonnête et le hait. Mais moins que l'indigence, s'en repent bien simplement. Mais, en tant qu'elle était ainsi contrebalancée et compensée, il ne s'en repent pas. Cela, ce n'est pas cette habitude qui nous incorpore au vice et y conforme notre entendement même. Ni n'est ce vent impétueux qui va troublant et aveuglant à secousse notre âme et nous précipite pour l'heure, jugement et tout, en la puissance du vice. Je fais coutumièrement entier ce que je fais, et marche tout d'une pièce. Je n'ai guère de mouvements qui se cachent et dérobent à ma raison, et qui ne se conduisent à peu près par le consentement de toutes mes parties, sans division, sans sédition intestine. Mon jugement en a la coulpe ou la louange entière. Et la coulpe qu'il a une fois, il l'a toujours. Car quasi dès sa naissance, il est un. Même inclination, même route, même force. Et en matière d'opinion universelle, dès l'enfance, je me logeais au point où j'avais à me tenir. Il y a des péchés impétueux, prompts et subis, laissons-les à part. Mais en ces autres péchés à tant de fois repris, délibérés et consultés, ou péchés de complexion, ou péchés de profession et de vacation, je ne puis pas concevoir qu'ils soient plantés si longtemps en un même cœur, sans que la raison et la conscience de celui qui les possède le veuillent constamment et l'entendent ainsi. Et le repentir qu'il se vante lui en venir à certain instant prescrit m'est un peu dur à imaginer et former. Je ne suis pas la secte de Pythagore, que les hommes prennent une âme nouvelle quand ils approchent des simulacres des dieux pour recueillir leurs oracles. Sinon qu'il voulut dire cela même qu'il faut bien qu'elle soit étrangère, nouvelle et prêtée pour le temps. La nôtre, montrant si peu de signes de purification et netteté qu'on digne à cet office. Ils font tout à l'opposite des préceptes stoïques, qui nous ordonnent bien de corriger les imperfections et vices que nous reconnaissons en nous, mais nous défendent d'en altérer le repos de notre âme. Ceux-ci nous font à croire qu'ils en ont grande déplaisance et remords au-dedans, mais d'amendements et corrections ni d'interruptions, ils ne nous en font rien apparaître. Aussi n'est-ce pas guérison si on ne se décharge du mal. Si la repentance pesait sur le plat de la balance, elle emporterait le péché. Je ne trouve aucune qualité si aisée à contrefaire que la dévotion, si on y conforme les mœurs et la vie, son essence est abstruse et occulte, les apparences faciles et pompeuses. Quant à moi, je puis désirer en général être autre. Je puis condamner et me déplaire de ma forme universelle et supplier Dieu pour mon entière réformation et pour l'excuse de ma faiblesse naturelle, mais cela, je ne le dois nommer repentir, ce me semble, non plus que le déplaisir de n'être ni ange ni caton. Mes actions sont réglées et conformes à ce que je suis et à ma condition. Je ne puis faire mieux. Et le repentir ne touche pas proprement les choses qui ne sont pas en notre force. Oui, bien le regret. J'imagine infinie nature plus haute et plus réglée que la mienne. Je n'amende pourtant mes facultés, comme ni mon bras ni mon esprit ne deviennent plus vigoureux pour en concevoir un autre qui le soit. Si l'imaginer et désirer un agir plus noble que le nôtre produisait la repentance du nôtre, nous aurions à nous repentir de nos opérations plus innocentes. D'autant que nous jugerons bien qu'en la nature plus excellente, elles auraient été conduites d'une plus grande perfection et dignité, et voudrions faire de même. Lorsque je consulte des déportements de ma jeunesse avec ma vieillesse, je trouve que je les ai communément conduits avec ordre, selon moi. C'est tout ce que peut ma résistance. Je ne me flatte pas. À circonstances pareilles, je serai toujours tel. Ce n'est pas tache, c'est plutôt une teinture universelle qui me tache. Je ne connais pas de repentance superficielle, moyenne et de cérémonie. Il faut qu'elle me touche de toutes parts avant que je la nomme ainsi, et qu'elle pince mes entrailles, et les afflige autant profondément que Dieu me voit, et autant universellement. Quant au négoce, il m'est échappé plusieurs bonnes aventures, à faute d'heureuses conduites. Mes conseils ont pourtant bien choisi, selon les occurrences qu'on leur présentait. Leur façon est de prendre toujours le plus facile et sûr parti. Je trouve qu'en mes délibérations passées, j'ai, selon ma règle, sagement procédé pour l'état du sujet qu'on me proposait, et en ferai autant d'ici à 1000 ans en pareilles occasions. Je ne regarde pas quel il est à cette heure, mais quel il était quand j'en consultais. La force de tout conseil gît au temps. Les occasions et les matières roulent et changent sans cesse. J'ai encouru quelques lourdes erreurs en ma vie, et importantes, non par faute de bon avis, mais par faute de bonheur. Il y a des parties secrètes aux objets qu'on manie, et indévinables, sciemment en la nature des hommes. Des conditions muettes, sans montre, inconnues parfois du possesseur même, qui se produisent et éveillent par des occasions survenantes. Si ma prudence ne les a pu pénétrer et prophétiser, je ne lui en sais nul mauvais gré. Sa charge se contient en ses limites. Si l'événement me bat et s'il favorise le parti que j'ai refusé, il n'y a remède. Je ne m'en prends pas à moi. J'accuse ma fortune, non pas mon ouvrage. Cela ne s'appelle pas repentir. Phocion avait donné aux Athéniens certain avis, qui ne fut pas suivi. L'affaire, pourtant, se passant contre son opinion, avec prospérité, quelqu'un lui dit « Eh bien, Phocion, es-tu content que la chose aille si bien ?»« Bien, suis-je content, » fit-il, « qu'il soit advenu ceci, mais je ne me repens point d'avoir conseillé cela. » Quand mes amis s'adressent à moi pour être conseillés, je le fais librement et clairement, sans m'arrêter, comme fait quasi tout le monde, à ce que, la chose étant hasardeuse, il peut advenir au rebours de mon sens, par où ils aient à me faire reproche de mon conseil, de quoi ils ne me chaud. Car ils auront tort, et je n'ai dû leur refuser cet office. Je n'ai guère à me prendre de mes fautes ou infortunes à autre qu'à moi. Car en effet, je me sers rarement des avis d'autrui, si ce n'est par honneur de cérémonie, sauf où j'ai besoin d'instruction de science ou de la connaissance du fait. Mais aux choses où je n'ai à employer que le jugement, les raisons étrangères peuvent servir à m'appuyer, mais peu à me détourner. Je les écoute favorablement et décemment toutes. Mais qu'ils m'en souviennent, je n'en ai cru jusqu'à cette heure que les miennes. Selon moi, ce ne sont que mouches et atomes qui promènent ma volonté. Je prise peu mes opinions, mais je prise aussi peu celles des autres. Fortune me paie dignement. Si je ne reçois pas de conseils, j'en donne aussi peu. J'en suis peu enquis, et encore moins cru, et ne sache nulle entreprise publique ni privée que mon avis est redressé et ramené. Ceux même que la fortune y avait quelque peu attaché se sont laissés plus volontiers manier à toute autre cervelle qu'à la mienne, comme celui qui suit bien autant jaloux des droits de mon repos que des droits de mon autorité, je l'aime mieux ainsi. Me laissant là, on fait selon ma profession qui est de m'établir et contenir tout en moi. Ce m'est plaisir d'être désintéressé des affaires d'autrui et dégagé de leur sauvegarde. En toutes affaires, quand elles sont passées, comment que ce soit, j'y ai peu de regrets, car cette imagination me met hors de peine qu'il devait ainsi passer. Les voilà dans le grand cours de l'univers et dans l'enchaînure des causes stoïques. Votre fantaisie n'en peut, par souhait et imagination, remuer un point que tout l'ordre des choses ne renverse et le passé et l'avenir. Au demeurant, je hais cet accidentel repentir que l'âge apporte. Celui qui disait anciennement être obligé aux années de quoi elle l'avait défait de la volupté avait autre opinion que la mienne. Je ne saurais jamais bon gré à l'impuissance, de bien qu'elle me fasse. Et l'on ne verra jamais la providence si adverse de son propre ouvrage que la faiblesse soit comptée au nombre des meilleures choses. Nos appétits sont rares en la vieillesse. Une profonde satiété nous saisit après le coup. En cela, je ne vois rien de conscience. Le chagrin et la faiblesse nous impriment une vertu lâche et cathareuse. Il ne nous faut pas laisser emporter si entier aux altérations naturelles que d'en abâtardir notre jugement. La jeunesse et le plaisir n'ont pas fait autrefois que j'ai méconnu le visage du vice en la volupté, ni ne fait à cette heure le dégoût que les ans m'apportent, que je méconnaisse celui de la volupté au vice. Or que je n'y suis plus, j'en juge comme si j'y étais. Moi qui la secoue vivement et attentivement, trouve que ma raison est celle même que j'avais en l'âge plus licencieux. Sinon, à l'aventure, d'autant qu'elle s'est affaiblie et empirée en vieillissant. Et trouve que ce qu'elle refuse de m'enfourner à ce plaisir, en considération de l'intérêt de ma santé corporelle, elle ne le ferait non plus qu'autrefois pour la santé spirituelle. Pour la voir hors de combat, je ne l'estime pas plus valeureuse. Mes tentations sont si cassées et mortifiées qu'elles ne valent pas qu'elles s'y opposent. Tendant seulement les mains au devant, je les conjure. Qu'on lui remette en présence cette ancienne concupiscence. Je crains qu'elle aurait moins de force à la soutenir qu'elle n'avait autrefois. Je ne lui vois rien juger à part soi que lors elle ne jugea, ni aucune nouvelle clarté. Par quoi, s'il y a convalescence, c'est une convalescence maléficiée. Misérable sorte de remède, devoir à la maladie sa santé. Ce n'est pas à notre malheur de faire cet office, c'est au bonheur de notre jugement. On ne me fait rien faire par les offenses et afflictions que les maudire. C'est aux gens qui ne s'éveillent qu'à coups de fouet. Ma raison a bien son cours plus libre en la prospérité. Elle est bien plus distraite et occupée à digérer les maux que les plaisirs. Je vois bien plus clair en temps serein. La santé m'avertit, comme plus allègrement, aussi plus utilement que la maladie. Je me suis avancé le plus que j'ai pu vers ma réparation et vie réglée lorsque j'avais à en jouir. Je serais honteux et envieux que la misère et l'infortune de ma vieillesse eût à se préférer à mes bonnes années saines, éveillées, vigoureuses, et qu'on eût à m'estimer, non pas par où j'ai été, mais par où j'ai cessé d'être. À mon avis, c'est le vivre heureusement, non, comme disait Antisthène, le mourir heureusement qui fait l'humaine félicité. Je ne me suis pas attendu d'attacher monstrueusement la queue d'un philosophe à la tête et au corps d'un homme perdu, ni que ce chétif bout eût à désavouer et démentir la plus belle, entière et longue partie de ma vie. Je me veux présenter et faire voir partout uniformément. Si j'avais à revivre, je revivrais comme j'ai vécu. Ni je me plains le passé, ni je ne crains l'avenir, et si je ne me déçois, il est allé du dedans environ comme du dehors. C'est une des principales obligations que j'ai à ma fortune. Que le cours de mon état corporel ait été conduit chaque chose en sa saison. J'en ai vu l'herbe et les fleurs et le fruit, et en vois la sécheresse. Heureusement, puisque c'est naturellement. Je porte bien plus doucement les maux que j'ai, d'autant qu'ils sont en leur point et qu'ils me font aussi plus favorablement souvenir de la longue félicité de ma vie passée. Pareillement, ma sagesse peut bien être de même taille en l'un et en l'autre temps. Mais elle était bien de plus d'exploits et de meilleure grâce, verte, gaie, naïve, qu'elle n'est à présent, cassée, grondeuse, laborieuse. Je renonce donc à ces réformations casuelles et douloureuses. Il faut que Dieu nous touche le cœur. Il faut que notre conscience s'amende d'elle-même, par renforcement de notre raison, non par l'affaiblissement de nos appétits. La volupté n'est en soi ni pâle ni décolorée, pour être aperçue par des yeux chassieux et troubles. On doit aimer la tempérance par elle-même, et pour le respect de Dieu qui nous l'a ordonné, et la chasteté, celle que les cathares nous prêtent, et que je dois au bénéfice de ma colique, ce n'est ni chasteté ni tempérance. On ne peut se vanter de mépriser et combattre la volupté si on ne la voit, si on l'ignore, et ses grâces, et ses forces, et sa beauté plus attrayante. Je connais l'une et l'autre, c'est à moi de le dire. Mais il me semble qu'en la vieillesse, nos âmes sont sujettes à des maladies et imperfections plus importunes qu'en la jeunesse. Je le disais étant jeune, l'or on me donnait de mon menton par le nez, je le dis encore à cette heure que mon poil gris n'en donne le crédit. Nous appelons sagesse la difficulté de nos humeurs, le dégoût des choses présentes. Mais à la vérité, nous ne quittons pas tant les vices comme nous les changeons. Et à mon opinion, en pis. Outre une sotte et caduque fierté, un babil ennuyeux, ses humeurs épineuses et inassociables, et la superstition, et un soin ridicule des richesses lorsque l'usage en est perdu, j'y trouve plus d'envie, d'injustice et de malignité. Elle nous attache plus de rides dans l'esprit qu'au visage, et ne se voit point d'âme, ou fort rare, qui en vieillissant ne sente l'aigre et le moisi. L'homme marche entier vers son croix et vers son décroît. Avoir la sagesse de Socrate et plusieurs circonstances de sa condamnation, j'oserais croire qu'il s'y prêta quelque peu lui-même, par prévarication, à dessein, ayant de si près, âgé de 70 ans, à souffrir l'engourdissement des riches allures de son esprit et l'éblouissement de sa clarté accoutumée. Quelle métamorphose lui vois-je faire tous les jours en plusieurs de mes connaissances? C'est une puissante maladie, et qui se coule naturellement et imperceptiblement. Il y faut grande provision d'études et grande précaution pour éviter les imperfections qu'elle nous charge, ou au moins affaiblir leur progrès. Je sens que, nonobstant tous mes retranchements, elle gagne pied à pied sur moi. Je soutiens tant que je puis, mais je ne sais enfin où elle me mènera moi-même. À toutes aventures, je suis content qu'on sache d'où je serai tombé.